18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Salut à toutes et à toutes, vous êtes sur Radio U au 101.1 pour votre quotidienne. Ce soir, en deuxième partie d'émission, on accueillera le collectif Dominique, mais d'abord on est avec Loïc Le Gall, directeur du Centre d'art contemporain Passerelle, et Germain Marguillard, salut.
Salut.
Salut Lou.
Alors, le 15 juin, le centre réouvre ses portes pour le vernissage des expositions de la saison estivale et on va pouvoir un peu détailler les trois expositions qui ont été choisies. Mais avant, Loïc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe pour le choix des expositions au centre Passerelle ?
Alors, le choix des expositions, il y a plusieurs possibilités, j'ai envie de dire. Il y a, en fait, c'est mon travail essentiellement de prospecter, donc de rencontrer des artistes, de construire des propos avec eux et avec elles. Donc il y a plusieurs possibilités, soit on est sur des expositions collectives et je construis on va dire une pensée autour d'un sujet, donc là par exemple ça sera la séparation, qu'est-ce que d'une séparation, ou ça peut être une monographie comme Germain présente une monographie à l'occasion là. Ça se passe comment? Ça se passe par des appels à projets, ça se passe par des candidatures spontanées parfois d'artistes qui nous contactent, mais on va dire que le gros de mon travail c'est quand même de rencontrer les artistes, de les visiter, de discuter avec eux et elles autour de leur travail pour trouver la perle rare.
Et donc là, comme tu le disais, l'une des premières expositions, c'est une exposition collective dont le thème est la séparation. Et elle est proposée dans le cadre des 20 ans du prix Marcel Duchamp. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ce prix ?
Bien sûr, le prix Marcel Duchamp, c'est le grand prix d'art contemporain en France. Chaque année, il est décerné à une ou un artiste pour sa carrière, en fait. Il y a une exposition qui se passe au Centre Pompidou à Paris. Et à l'issue de l'exposition, le prix est donc décerné. Et là, en l'occurrence, on montre des artistes qui ont été nommés à ce prix ou des artistes qui ont été lauréats ou lauréates du prix.
Et donc là, les artistes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 6 et ils pensent un petit peu la séparation de multiples manières. Ça peut être la séparation sur le plan géographique, la séparation amoureuse, la séparation entre deux âges, par exemple. Est-ce que la volonté, justement, c'était d'avoir un point de départ qui est commun, mais ensuite d'avoir des visions très différentes en fonction des artistes ?
Exactement. En fait, le mot séparation, c'est un mot qui a de multiples sens, de multiples possibilités. À l'origine, moi, je m'étais intéressé au film de Faradi, un film qui s'appelait Une séparation, qui est un film iranien qui avait eu la Palme d'Or à Cannes dans les années 2000 et qui traitait de la question à la fois religieuse, la séparation religieuse, la séparation amoureuse et la séparation politique. Et je trouvais que déjà, il y a pas mal de possibilités dans ce film-là et j'essaie de transposer un petit peu, finalement, moi, ce que je comprenais d'une séparation dans une exposition collective avec cet enjeu de trouver... plein de possibilités. Donc là, en l'occurrence, on a la séparation amoureuse, par exemple, la séparation aussi de la mer Méditerranée, qui est une séparation naturelle entre deux continents. Donc c'est l'occasion de parler aussi de migration, mais également aussi on parle de politique, avec par exemple la séparation des deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud. Donc on a beaucoup de sens potentiel dans ce mot, y compris même un sens très prosaïque autour d'une séparation juste physique. Par exemple, un rideau, c'est une séparation, ou par exemple, juste un plan sur un tableau, hein, une ligne dans un tableau, c'est une séparation.
Et là, les artistes, ils ont créé du coup spécialement par rapport à cette consigne, où ils avaient déjà des œuvres qui traitaient de la séparation, et du coup, ça les fait coller à ce thème-là.
Il y a les deux cas, en l'occurrence. Mmh. On a un artiste qui s'appelle Éric Baudelaire, qui a réalisé spécialement une œuvre pour Brest. Éric a réalisé une œuvre... qui est assez intéressant parce qu'elle est interactive, donc déjà on peut venir s'installer dans l'œuvre et en fait il y a une interaction avec l'œuvre et c'est tout un travail entre la frontière entre le paranormal et la science. En fait, la petite histoire de départ pour Eric, c'était de reprendre l'histoire de sa mère qui était laborantine pour Alstom, enfin pour une grande compagnie française dans le 440, enfin un truc énorme. Et en fait, le patron de cette boîte à l'époque avait créé un laboratoire paranormal dans les années 70, un petit peu comme dans les films américains, on imagine la zone 51, ce truc-là, en fait. Et, sauf que c'était en France, et ça s'est vraiment passé, il y a vraiment des expériences. Et en fait, le point de départ, c'est une expérience qu'a menée sa mère, qui le retranspose aujourd'hui, 30 ou 40 ans plus tard.
Et avant de parler de ton exposition, Germain, il y a aussi une troisième exposition qui va être présentée, c'est Grande Terre de Laura Hainaut. Précisément, c'est une monographie, donc une étude est détaillée sur un sujet précis, et elle s'intéresse à travers des photographies à Mayotte, et notamment au conflit qu'il peut y avoir sur l'île entre les Mahorais et les Comoriens. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet qui fait beaucoup l'actualité en ce moment, notamment avec l'opération Wambushu et la destruction de bidonvilles. Est-ce que le choix de l'exposition, il a été fait un peu justement par rapport à cette actualité qui est assez chaude? Ou est-ce que c'était déjà un choix et au final l'actualité est venue y coller encore plus?
C'était déjà une exposition qu'on avait dans les tuyaux depuis un moment. Il se trouve que l'actualité fait pleinement écho à l'exposition aujourd'hui, mais c'était vraiment aussi un hasard, même si finalement l'actualité de Mayotte, elle est, enfin, tous les jours, en fait, il y a ces histoires de migration, tous les jours, il y a ces histoires de violence ou de racisme. Et en fait, c'est un sujet perpétuel dans cette île. C'est une île, en termes d'histoire, qui a été finalement volée d'une certaine manière par la France, hein, puisqu'en fait, le référendum initial dans les années 60 donnait l'indépendance à Mayotte avec les Comores. Hein, et finalement, à l'époque, le gouvernement français de Valéry Giscard d'Estaing avait préféré truquer, entre guillemets, le référendum pour pouvoir conserver dans le giron français l'île pour des raisons géostratégiques par rapport à l'Afrique.
Et donc, alors Germain, toi, ton exposition, c'est À l'infini, pas du tout. Donc, ça fait partie des expositions qu'on va pouvoir retrouver au Centre Passerelle. Et il me semble que tu as fait partie d'un programme qui s'appelle les Chantiers Résidences. C'est un programme qui est porté par le Centre Passerelle et Documents d'Artistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme et sur ce que ça t'a apporté en tant qu'artiste?
Ouais, donc les Chantiers Résidences, c'est un programme qui est là pour soutenir la jeune création, donc des artistes comme moi qui sont diplômés souvent des Beaux-Arts depuis quelques années. Et donc moi, ça m'a permis par exemple de réaliser des... Donc je fais de la sculpture et j'utilise pas mal de la céramique, le bois. Et donc l'atelier de production à Passerelle et le fait d'être assisté aussi par des techniciens, parce qu'il y a deux régisseurs dans le centre d'art qui étaient là aussi pour m'accompagner, pour m'aider tout au long de la résidence. C'est quelque chose qui m'a permis de réaliser des sculptures d'une échelle bien supérieure à ce que j'avais l'habitude de faire, à ce que je pouvais faire quand je travaille tout seul dans mon atelier. Et c'est aussi après tout un accompagnement critique sur le projet de l'exposition, sur les réflexions que je peux avoir aussi pendant le temps de création des œuvres. Qui est intéressante pendant la résidence.
Et est-ce qu'au niveau du propos de ton exposition, de ton projet, c'est quelque chose que tu avais déjà en amont ou tu l'as vraiment créé pendant ces mois de résidence à Passerelle?
Le thème de l'exposition, je l'ai été déjà un peu fixé en amont, puisque donc, pour accéder à cette résidence, c'est sur un appel à candidature dans lequel on présente déjà des intentions en fait, d'un projet, mais qui peuvent après évoluer avec le temps. Et moi, je suis resté assez fidèle à ce que j'avais proposé dans ma candidature, donc j'avais déjà le thème général de l'exposition, mais après, j'avais pas du tout d'idées précises des formes sculpturales que j'allais créer. Tout s'est fait pendant le temps de résidence.
Et alors, par rapport justement au thème de ton exposition, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que le fil rouge de la recherche, c'est notamment l'ésotérisme, tout ce qui a trait au magique et à l'astrologie. Pourquoi c'est des thèmes qui t'ont inspiré en particulier?
Oui, c'est ça. Et donc, pour moi, l'idée de... Ce qui m'a amené à ce thème d'exposition-là, c'était des recherches que j'ai faites pour mon mémoire quand j'étais aux Beaux-Arts. Et en étudiant un peu l'histoire, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a un grand regain d'intérêt envers les pratiques un peu spirituelles, que ce soit la magie, le chamanisme. On en entend de plus en plus parler dans plein de champs différents, que ce soit les sciences humaines, dans le milieu médical, dans le milieu commercial. Et ce qui m'intéressait, c'était que ces moments où de réintérêt un peu général pour les pratiques spirituelles souvent arrivent à des périodes de l'histoire de grand développement scientifique, technologique. Et donc là, l'idée, c'était un peu d'étudier les nouvelles découvertes scientifiques, donc plus particulièrement par rapport à l'observation spatiale, au télescope, le télescope James Webb qui avait été lancé, ou les accélérateurs à particules qui permettent d'essayer de comprendre un peu plus ce qu'est la matière noire. Et donc j'essaie de lier en fait toute cette actualité un peu scientifique à aussi une iconographie et à une pensée plus ésotérique, plus spirituelle, plus ancienne, pour confronter en fait ces deux visions du monde et remettre un peu en cause notre rapport aussi au savoir scientifique, et est-ce que, est-ce que finalement on ne croit pas, on n'a pas aussi un peu une croyance dans ces connaissances scientifiques, puisque ce n'est pas des connaissances qu'on maîtrise finalement, c'est des choses qu'on nous dit et qui restent assez opaques.
Et c'est vrai qu'on peut lire justement à propos de ton exposition que tu aimes mêler la tradition à la modernité, tu étais un peu en train de l'expliquer, mais comment concrètement, si tu peux nous donner un exemple, mais ça se retranscrit à travers tes œuvres ?
Bah là par exemple, les œuvres qui sont présentées dans l'exposition à Passerelle, il y a la plus grosse œuvre, c'est une sorte de forme de parabole qui renvoie au radiotélescope, mais qui est reproduite en pierre, en céramique, donc avec des textures très minérales, et des ornements aussi, qui vont plus renvoyer à des architectures, en fait, à des architectures sacrées. Donc c'est vraiment cet aller-retour entre des objets qu'on a du mal à définir, en fait, qui sont entre des objets architecturaux, ou avec une ornementation un peu symbolique, et des objets technologiques, en fait, scientifiques.
Et donc tu disais que le chantier résidence, ça t'a aidé, ça t'a aussi permis d'avoir des critiques en fait. Loïc, en tant que directeur du centre, je ne sais pas depuis combien de temps existe ce dispositif, mais est-ce que vous avez le sentiment que, en effet, ça apporte vraiment une aide aux artistes émergents ?
On l'espère.
Ouais.
Je pense que oui, a priori, on est quand même assez utile dans ce registre-là. Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont passés maintenant dans les chantiers résidence depuis de nombreuses années, donc je dirais une bêtise, mais je pense que ça ne doit pas faire peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Peut-être même 10, peut-être même. Je crois que c'est 10 en 2024. Et en l'occurrence, maintenant, il y a des artistes qui exposent internationalement, qui exposent dans des grandes fondations, dans d'autres, qui ont fait finalement d'artistes leur métier, en fait, au sens strict. Parce que c'est vrai que lorsqu'on sort de l'école d'art, en l'occurrence, c'est très compliqué de se projeter pour la suite, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre de son art, comment est-ce qu'on va pouvoir construire une carrière. Et finalement, la résidence de Passerelle, c'est une première marche, finalement, pour pouvoir aller plus loin. C'est une introduction au monde professionnel de l'art contemporain. Je pense que c'est une introduction qui est quand même pas trop mal, parce que c'est un centre d'art labellisé. Enfin, ça apporte quand même beaucoup. C'est une assez belle ligne sur le CV, finalement, aussi.
Et toi, Germain, c'est ta première grosse exposition, du coup, ou tu avais déjà eu l'occasion d'exposer certaines de tes œuvres auparavant ?
J'avais déjà eu l'occasion d'exposer des œuvres, de faire des expositions, soit collectives, soit personnelles. Mais c'est ma première grosse exposition personnelle dans une structure comme un centre d'art, quoi.
Et alors peut-être une dernière question pour revenir sur l'aspect plus général de toutes les expositions qui vont avoir cet été. En tant que directeur, Loïc, tu trouves ça important de proposer une panoplie diverse ? Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir à la fois des sujets plutôt abstraits, personnels, qui laissent place aussi à l'imagination et à l'interprétation du spectateur, mais aussi des expositions comme, alors j'ai plus le nom, mais sur Mayotte, dont le sujet est vraiment... Ouais, c'est ça, est vraiment ancré dans l'actualité, dans une réalité où il y a peut-être moins cette place à l'imagination, mais c'est important d'avoir les deux.
Complètement. Alors moi, c'est quelque chose que je recherche vraiment à Passerelle. C'est finalement qu'un visiteur ou une visiteuse rentre dans le centre d'art, puisse voir plusieurs expositions et ressorte avec quelque chose qui l'aura interpellé, quelque chose qui marche en tout cas. Non, en effet, ça peut prendre un aspect politique, un aspect en effet plus personnel. Et oui, non, moi je recherche vraiment cette... pluridisciplinarité du centre d'art, ce rapport à la fois au sensible, ce rapport à l'actualité. Donc évidemment, ouais, c'est très important pour moi. C'est une manière de voir l'art de manière différente à chaque fois, en fait. Donc, par exemple, dans mon histoire personnelle, je viens à l'art à travers l'histoire ou à travers la sociologie, et finalement, c'est un aspect pour aborder l'art contemporain et la création en cours. Et il y en a des centaines, en fait. Et justement, c'est des portes ouvertes à chaque fois.
Merci beaucoup Loïc et Germain d'être venus nous parler des expositions estivales du Centre d'art contemporain Passerelle. Je rappelle que le vernissage aura lieu ce jeudi 15 juin à 18h, que l'entrée est libre et ouverte à toutes et à tous. Merci. Et tout de suite, je vous propose une petite pause musicale.
Merci Lou.
Merci. Summers, oh, forgotten faces we cried.
not today will offend your tomorrow. Everything's frozen, a rainy day with you in a room. My today will offend your tomorrow.
C'était Hours de Scopitone Cisco. Vous êtes toujours sur Radio U au 101.1 et tout de suite nous sommes avec Georges et Dominique du collectif Dominique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors le collectif Dominique, il a été créé en 2020 et l'idée c'était d'accompagner les personnes décédées dans la solitude et de leur organiser des obsèques dignes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle est née cette volonté de créer ce collectif ?
Nous étions dans une association d'accueil de précaires. Et un des précaires qui venait régulièrement est décédé pendant qu'on était en vacances. Et il est décédé tout seul. Et quand on est rentré de vacances, c'était un précaire avec qui on avait quand même beaucoup de liens. Et quand on est rentré de vacances, ben on ne savait même pas où il était, au cimetière. Donc et en même temps, on avait lu un article dans le Nola Ops, je crois, sur les morts de la rue à Paris, qui font à peu près ce qu'on fait, mais en 100 fois plus grand. Et donc ça nous a donné l'idée de créer ce collectif. Le précaire dont on parle s'appelait Dominique, d'où le nom du collectif.
Et parce que comment ça se passe concrètement quand une personne décède dans la solitude ou dans la précarité, comment ça se passe pour toutes celles et ceux qui ne sont pas capables de payer leurs obsèques, de payer leur propre tombe
On est prévenu par la mairie, puisqu'on a une charte avec la mairie. Donc le service décès cimetière nous prévient quand quelqu'un est isolé, quand il n'y a pas de famille directe, c'est-à-dire pas d'ascendant, pas de descendant. Et à ce moment-là, c'est nous qui nous occupons de leur rendre hommage et de l'enterrement à au cimetière de Kerfotra. Alors, le point de vue financier, nous, on ne s'en occupe pas. La loi oblige les municipalités, enfin, oui, c'est une loi qui oblige les municipalités à régler les obsèques lorsqu'il n'y a pas d'argent, tout simplement.
Et depuis le début de l'association, combien de sépultures vous avez organisées ?
Alors, on a commencé en réalité en 2021, parce qu'à cause du Covid, comme tout le monde, on a été bloqué. En 21, on a eu 15 décès. En 2022, on en a eu 13. Et là, on en a, je dirais, 5, 6 la semaine prochaine.
Un ce matin et un autre la semaine prochaine.
Et donc, on vous prévient, en fait.
Voilà, on nous prévient et nous, après, on...
Et on contacte les pompes funèbres, ensuite.
Voilà, on décide de la date.
Il faut dire qu'on a signé, au moment où on a créé ce collectif, on a signé une charte avec la mairie et avec le maire. Et la mairie nous a beaucoup aidés et continue à nous aider en nous donnant un budget de 600 euros, maintenant, pour les fleurs, à chaque hommage. Et en nous... étant la salle de mariage de la mairie de l'Europe, qui est une belle salle. Donc, il y a des collectifs comme nous qui font ça dehors, sous la pluie. Enfin bref, nous, on a cette belle salle pour faire les hommages. Peut-être qu'on en parlera pour le déroulement d'un hommage.
Bah, alors avant ça, je voulais quand même vous demander aussi, parce que est-ce qu'au-delà d'organiser les obsèques, est-ce qu'il y a derrière aussi un peu la volonté de s'intéresser à qui étaient les personnes qui décèdent, d'avoir un petit peu, enfin, de connaître leur parcours de vie, ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez à ne pas en savoir sur la vie privée de la personne ?
On essaye d'avoir des indications. Si, par exemple, il y a des frères et sœurs, même éloignés, mais dont on a les coordonnées, on essaye de les joindre, savoir un petit peu si la personne avait travaillé, ce qu'elle aimait comme musique, parce que pour nous, c'est important pour l'hommage. Enfin, on va pas dans des détails qui ne nous regardent pas. Mais c'est vrai que toute personne, même si elle est seule à la fin, en général, elle a eu une vie. Et donc, quand on n'a rien, c'était le cas un petit peu ce matin,
monsieur, on va voir les voisins, les voisins de palier, on va voir le café qui est en bas, s'il y a un café en bas. On fait une petite enquête pour pouvoir dire quelque chose, pour que ce ne soit pas complètement anonyme le jour de l'hommage.
Et on contacte, on est en relation, on met un mail aux associations comme le Secours catholique, toutes ces associations caricatives.
Oui, Secours Pop.
Qu'on a vues, qu'on a rencontrées. Donc, quand il y a un nom, on leur envoie. S'ils ont quelque chose, ils nous le disent.
D'accord. Alors, avant que je continue de poser mes questions, on va juste faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio U au 101.1, c'était Coalescence de RIO et nous sommes toujours avec le collectif Dominique. Alors juste avant, vous nous parliez du fait que ce matin même, vous avez eu un hommage. Est-ce que vous voulez bien nous en parler pour qu'on se rende compte un petit peu de à quoi ça ressemble finalement ?
Donc, un de nos membres a été faire une enquête auprès des voisins. Et ensuite, on s'est réunis avant-hier au centre social de Pantanézen qui nous prête une salle. Donc on s'est réunis, on était 5, et là on choisit texte et musique. L'hommage de ce matin, quand on sait heureusement quelle musique il aime, on a pu mettre du Johnny Hallyday, on a pu mettre du Sardou, on a pu mettre... là aujourd'hui on ne savait rien, c'est affreux, mais on ne savait rien sur lui. Donc on choisit les textes, il y a 3 textes qui seront lus, et il y a 3 musiques, une entrée, une au milieu et une à la fin au cimetière. Donc on choisit les musiques. Et on a des petits lumignons qu'on met autour du cercueil. Puis rien d'extraordinaire. Ensuite, on va au cimetière. On a acheté des roses un peu sur nos fonds propres et qu'on jette dans la tombe. Et voilà comment ça se passe, quoi.
Et là, tu disais que vous étiez 5, mais en fait, qui est-ce qui peut se rendre à ces obsèques en général ? Est-ce que c'est uniquement des gens de l'association ou est-ce que ça peut, par exemple, vous arrivez à retrouver les familles
Alors, on a eu la chance d'avoir le télégramme qui passe. Une annonce,
un
avis de décès.
Ouest France
aussi qui passe un avis de décès. Et grâce à ça, on a réussi à récupérer de temps en temps des sœurs, des frères. Et là, aujourd'hui, il y avait. C'est pas par l'avis de décès aujourd'hui. Quatre voisines. Donc, on se retrouve. Bon, le collectif, on est une quinzaine maintenant. On a débuté à 3. Je vous garantis que quand on était 3 dans la grande salle de mariage à faire cet hommage, on savait pas trop où on allait. Maintenant, on est une quinzaine, grâce un peu aux journaux qui ont fait des articles sur nous et tout. Aujourd'hui, on était 9 du collectif, parce qu'on peut pas tous toujours être là, 9 du collectif et ses 4 voisines. Tout le monde peut venir, évidemment, si c'est pour le respect de la personne qu'on n'a peut-être pas trop assez respecté pendant qu'il était vivant, vu qu'on l'a laissé mourir isolé. La personne de ce matin, c'est quelqu'un qui est mort en février et qu'on a découvert au mois de
mai.
Donc qui est resté seul chez elle, décédé pendant ces mois. C'est quand même en plein 2022. C'est effrayant quand on y pense.
Et alors, peut-être juste, donc vous disiez que vous êtes 15 actuellement dans le collectif, donc 15 bénévoles. Qu'est-ce que c'est le rôle des bénévoles, en fait, au quotidien dans votre collectif ?
Alors, il n'y a pas vraiment de quotidien. Déjà, les bénévoles, ils s'engagent à hauteur de ce qu'ils désirent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne viennent qu'aux cérémonies. Après, il y en a qui viennent aux préparations, il y en a qui s'occupent de l'entretien des tombes parce qu'il faut bien les entretenir et c'est un gros travail. Donc chacun, il y en a qui font les petites enquêtes.
Toi, tu t'occupes du secrétariat.
Il y a le secrétariat aussi, oui.
C'est un gros travail aussi.
C'est un gentil travail. les relations avec la mairie, avec les pompes funèbres, enfin toutes ces choses-là. Mais on n'a pas eu de décès pendant 3 mois. On en a 3 depuis 3 semaines, quoi.
Et c'est un travail qui vous prend beaucoup de temps, en fait, au final.
Effectivement, il y a tout ce qui est relations. Et puis après, la préparation. Un hommage, ça veut dire qu'on l'a préparé avant. Ça veut dire que dans notre esprit, quand on prépare l'hommage, on est déjà en train de respecter, de rendre hommage à cette personne. Puisqu'on prépare, quand on sait ses musiques, quand on sait ce qu'elle a fait dessous, c'est important pour nous. Les textes, on essaye de aussi qu'ils correspondent à la personne.
Est-ce qu'on peut préciser quelque chose qui me paraît très important quand tu parles comme ça ? C'est que c'est un collectif laïque.
Ah oui, exact.
Et ça, c'est très très important. Alors, nous, ce qui nous dirige, c'est le respect,
la dignité.
Mais la dignité, au milieu de nous, il y a un prêtre, il y a une religieuse, il y a des gens qui sont, on ne connaît pas leur religion, des gens qui sont certainement catholiques, d'autres qui sont athées. Enfin, mais il faut bien préciser que c'est un collectif laïque. Et donc, on y va dans cette notion de respect, vraiment, mais au niveau de laïcité. Si on sait que la personne était catholique, et on peut dire une prière, hein, puisqu'on a une religieuse, on a un prêtre.
Et je reviens juste à la question de la sépulture, mais vous disiez qu'en effet, vous cherchez quand même à essayer de comprendre qui étaient les personnes. Est-ce que du coup, ça a pu vous arriver de retrouver, par exemple, des membres de la famille ou des proches, ou ça, c'est plus rare ?
Des proches, des amis. Moi, quelquefois, j'ai aussi des coups de téléphone. La personne dit, j'ai vu, c'était un de mes grands amis, etc. Et donc, il y a des retours. Et puis, on a fait un entretien des tombes il y a 15 jours, 3 semaines. Et on a constaté que sur certaines tombes, il y avait des fleurs. Donc, il y a ou des proches. Il y a des choses qui se passent. On ne sait pas tout, je pense. c'est vrai que le monsieur qu'on a enterré la semaine dernière, moi, j'ai eu un coup de fil après de personnes qui avaient travaillé avec lui.
Et qui s'est rendu compte, en fait.
Qui ont eu l'avis de décès et qui m'ont tout de suite contacté. Et qui sont effectivement allés poser des fleurs, d'ailleurs, sur la tombe. Donc, oui, c'est vrai que le fait que les journaux publient le font gracieusement, publient les avis de décès, c'est un plus.
Et tu me parlais tout à l'heure de l'hommage annuel. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur cet hommage annuel ?
Alors, on a déjà fait deux hommages annuels qui se passent au cimetière de Kerfoutras, puisque c'est là-bas que sont inhumées les personnes. Il n'y a plus de carré commun, oui, on a oublié de dire ça.
Tu peux peut-être le préciser.
C'est très important, oui. Les tombes sont au milieu des autres.
On ne dit plus indigent.
On ne parle plus de personnes indigentes. Il n'y a plus de carré commun, et ça, c'est...
Parce que carré commun, ça représentait quoi exactement ?
Ça représentait aussi toute une histoire.
À l'époque, on parlait d'indigents qu'on enterrait dans le même... tous au même endroit, et donc, voilà.
Et maintenant, chacun a sa propre...
Voilà, avec son nom. Ils ont tous leur nom. Tout est là-dessus. Et donc tous les ans, mi-octobre, fin octobre, on n'a pas encore fixé la date avec la mairie, on fait un hommage pour toutes les personnes de l'année et on n'oublie jamais de reciter les personnes précédentes. Donc, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu aussi des musiciens de Bagad qui vont revenir l'an prochain. on a une jeune fille aussi qui chante avec sa guitare. On a une chorale de précaires et c'est bien. Donc, on a tout ça, on a beaucoup de musique, on a l'adjointe au maire qui vient, donc c'est quand même très officiel. Et bon, les personnes qui ont enterré des proches ou des amis sont toutes conviées.
Et là, sur cet hommage annuel, vous avez réussi à avoir un petit peu plus de monde que...
Le dernier, on était une... Moi, je n'ai pas compté.
Soixantaine, oui. Ouais. Et on était une soixantaine. C'est très chronophage, ça, par contre, organiser cet hommage, contacter les bagades, faire des affiches, aller les porter dans toutes les associations de Brest. Ça nous prend un bon mois et demi à l'avance. Avec l'inquiétude que ça ne fonctionne pas, et ça a fonctionné. La première année, on était une quarantaine, et là, cette année, on était 60, et jusqu'à présent, il n'a pas plu. Sauf les 5 dernières minutes de cette année, donc on a beaucoup de chance.
Oui. Donc ce qui est important à dire, c'est que cette année, normalement, si tout va bien, on va mettre en place un lieu dédié.
Alors qu'est-ce que...
C'est-à-dire un lieu du collectif Dominique, donc des personnes décédées et enterrées par le collectif Dominique. Parce que les sépultures sont pour 5 ans. Et il peut arriver que de la famille arrivent quelques années plus tard, ça on le sait par d'autres collectifs de la région. Et donc, c'est important qu'ils puissent se recueillir. Et nous, on essaye aussi de garder les hommages, de garder les textes, les musiques, les dates.
Si les personnes veulent y avoir accès, ensuite.
Voilà.
Alors, on a une bénévole qui écrit les noms en calligraphie. Mmh. On lit les noms et on va accrocher, on les découpe, ça forme une feuille, et on va les accrocher à un arbre. Mais dorénavant, on aura ce lieu pérenne et on aura notre arbre à nous. Alors en ce moment, on est en train de se demander, le responsable du cimetière nous parle d'un caroubier, mais caroubier, c'est plutôt dans le sud. Bon, bref, on en est là.
Hein. Vous ne savez pas encore où sera ce lieu.
Un petit monument, enfin bref, on aura
un lieu
au collectif où les familles qui viendraient pourront venir. Il y aura une ardoise avec le nom de toutes les personnes qu'on aura vues. Hein.
Donc, voilà. Elles y sont déjà, les ardoises.
Les ardoises y sont déjà, oui.
Mais donc, voilà. Il y aura peut-être un totem avec vraiment les noms petit à petit. Oui. C'est important parce qu'effectivement, la solitude, elle ne vient pas comme ça. C'est souvent des familles explosées.
Le monsieur de ce matin, c'était quelqu'un qui était alcoolisé. Mais il y avait sa maman qui le tenait à bout de bras. Et puis sa maman est morte, est décédée, et voilà, et il a sombré. C'est souvent des choses comme ça. Hein. Souviens-toi, le monsieur de 30 ans, c'est peut-être un où on a tous pleuré. Hein. Il y avait 30 ou 35 personnes là. D'habitude, on est quoi, une quinzaine maximum, 20 maximum. Là, il y avait une trentaine de personnes. C'était un monsieur de 30 ans qui était dans un centre, non?
Oui. Hein.
Et il y avait le gamin de 12 ans. Enfin bon, c'était
assez terrible.
C'était de l'alcool. Hein. C'était alcool, drogue.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de votre collectif, de nous avoir parlé de ce que vous faites au quotidien pour ces personnes. C'est la fin de notre quotidienne. Merci aussi à Bruno qui était à la technique ce soir. Je vous dis à demain et je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de Radio U.